Amphi Radio. Amphi Radio. Michael Borot, bonjour.
Bonjour Laetitia.
Merci d'être avec nous sur Stars & Sun et FLP Radio.
Bonjour, merci de m'avoir invité en tout cas pour cette interview.
Avec plaisir, donc on va faire un petit rappel. Donc tu es vice-champion du monde mi-lourd de taekwondo. Tu as été également champion d'Europe et multiple champion de France.
C'est bien ça, oui.
Tu as été entraîneur national à l'INSEP.
Oui, durant 6 ans jusqu'à l'année dernière.
Donc finalement, tu as quitté donc la fédération pour te consacrer au coaching international. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors, c'est plus du coaching professionnel en fait.
D'accord.
C'est plutôt du coaching professionnel. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner des clients qui peuvent être des particuliers ou des entreprises dans leur évolution. Donc, on utilise tout ce qui est développement personnel, outils de communication et PNL, qui permettra, on va dire, d'aider les personnes ou de les guider à apporter leur propre solution en vue d'un objectif. Donc,
D'accord. C'est
en général, on assigne ça à un coach en entreprise, quoi.
Donc, PNL, donc programmation neurolinguistique.
Tout à fait, exactement.
C'est ça, d'accord. Est-ce que tu fais de l'AT aussi, un peu d'analyse transactionnelle ou...
Oui, bien sûr. Mais justement, un coach professionnel, lorsqu'il est certifié, j'ai eu ma certification il y a quelques mois, a une solide formation de tout ce qui touche à la communication. Et justement, il y a quelques mois, j'ai monté ma société qui s'appelle Human Performance by Michael Borot. C'est une société de prestations en service de consulting et en coaching de performance. Parce que moi, j'aimerais vraiment aborder la performance avec tout à chacun et accompagner vraiment mes clients à réveiller leur potentiel, quoi. Donc, j'utilise aussi la préparation mentale puisque je suis également diplômé en préparation mentale.
Bah super.
Ce qui est très intéressant, c'est que comme chaque cas est complètement différent, ça vous donne une perspective non limite.
Oui, bien sûr. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à mes clients à mieux se connaître pour améliorer leur performance. Et forcément, lorsqu'on travaille avec quelqu'un, on va essayer d'individualiser par rapport à ses propres besoins.
Donc justement, D'accord. Tu parlais de performance. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, puisqu'évidemment, tu ne peux pas nous donner tous tes conseils, mais pour performer, quel que soit le sport, quelques petits conseils comme ça, les plus importants du moins.
Alors, moi, j'aime bien me référer par rapport à ma propre expérience, en fait. J'essaye... Pour performer, j'ai appris déjà à mieux me connaître. Je pense qu'il est important d'identifier par une analyse de diagnostic ses points forts et ses points faibles et essayer d'en tirer un petit peu des solutions. Et ce que je m'exerce souvent avec les athlètes que je suis, c'est à mettre des plans de stratégie ou des routines qui vont me permettre, on va dire, de se concentrer sur l'essentiel, les choses à améliorer et les choses à gommer d'une certaine façon. Et je pense que c'est vraiment une solution pour apprendre à optimiser son potentiel. Quand je dis potentiel mental particulièrement, c'est sa confiance en soi, la gestion de ses émotions, son activation, sa concentration, sa prise de décision. Tout ça, en fait, il y a différents outils, différents moyens qui vont permettre, on va dire, de potentialiser tout ça en vue de performer.
À ce sujet, au niveau de la crise qui touche actuellement, malheureusement, tous les sports, et plus particulièrement les sports de combat, qu'est-ce que t'en penses? Et tu penses, quels seront les moyens et les solutions pour se relever de cela?
Tu as tout à fait raison de souligner que c'est une crise qui touche le sport, mais ça touche pas uniquement le sport, en fait. Cette particularité de la crise, en fait, elle est d'ampleur internationale, et c'est aussi une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale et sociétale d'une certaine façon, quoi. Donc oui, ça touche le sport. On a pu le voir par le report des Jeux Olympiques ou les différentes grandes compétitions françaises, la Ligue 1 ou autres. Mais c'est vrai que la spécificité des arts de combat, c'est que ça se pratique en salle, donc en milieu confiné, et les distances sont assez proches, en fait, pour les sports de contact, les sports de touche ou d'appréhension, et c'est assez compliqué. Donc oui, je pense que on doit tirer, on va dire, profit de cette crise, parce que j'ai tendance à rester optimiste pour essayer de peut-être offrir à nos pratiquants quelque chose de différent.
J'ai une question, Michael.
Oui.
Est-ce que tu as des contacts à travers le monde qui reviennent vers toi en te demandant ouais, on est en difficulté, comment ça se passe du côté de la France? Est-ce qu'il y a quand même un chassé-croisé d'informations entre vous, acteurs de haut niveau dans le monde du sport, pour pouvoir communiquer? Est-ce que vous communiquez entre vous et est-ce que vous avez des tendances des différents continents?
Alors oui, on a tendance à avoir un réseau international, puisque comme j'étais entraîneur et que j'ai aussi formé au Mexique récemment, où j'ai fait un master pour les entraîneurs en préparation mentale. Donc j'ai pas mal d'entraîneurs qui sont venus me demander, parce que c'est un petit peu le flou en fait, tout le monde est en perte de repère, qu'est-ce qu'aujourd'hui la France apporte comme solution par rapport à la crise en fait, au Covid. Et moi personnellement, j'avais pas plus de réponses à leur apporter, donc tout le monde est un petit peu en pause d'une certaine façon. Tout ce que je peux leur dire ou garantir par rapport à mes propres convictions, c'est que demain ce sera plus vraiment la même chose en fait. Donc je les pousse vraiment à, en accompagnement le changement, à essayer de penser autrement, penser que le taekwondo, penser que le sport en général devra, on va dire, se réinventer d'une certaine façon.
Justement.
Vous pensez vraiment qu'il va falloir se réinventer? Ou vous pensez pas plutôt que, comme on l'a signalé dans d'autres interviews et dans d'autres émissions, que les choses vont reprendre leur vie normale?
Alors non, parce que pour moi, déjà, cette crise, comme on a pu le voir, à part en tant que guerre, elle a monté la fragilité du système, en fait, du monde sportif. Elle a mis en lumière les failles et en fait, et ça nous a montré, nous a rappelé la nécessité de se réinventer d'une certaine façon. Je pense que le Covid ou cette épidémie, cette pandémie, va toujours planer sur le monde du sport. Dès qu'il y aura peut-être une crise, une recrudescence, on va dire, de contaminés, je pense que le sport sera quand même l'activité, le secteur le premier touché. On a pu le voir aujourd'hui. Le sport performance a du mal à reprendre, on va dire, son fonctionnement normal. Et pour ça, pour que on retrouve un état normal, il faut trouver un vaccin. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences et d'incompréhension à ce niveau-là. Et pour avoir un vaccin fiable, il faudra peut-être attendre un an. Donc, je pense que d'ici là, si on veut continuer à pratiquer notre sport, le taekwondo et le sport en général, il faudra peut-être proposer aux adhérents, aux licenciés, une pratique complètement différente en essayant de respecter ce cadre de distanciation, des mesures barrières ou des choses comme ça.
Michael, le stade de distanciation, il va pas durer non plus 2 ans. Je pense.
Il va pas.
C'est pour ça que je vous dis que je pense que vous allez devoir reprendre vos bases et vous adapter pour le cas où il y aurait une seconde vague.
Justement, imaginez qu'on reprenne comme si c'était normal et qu'il y ait une seconde vague. Je pense qu'il faudra peut-être anticiper de se dire que pour éviter cette seconde vague ou d'être encore en pause, qu'il faudrait peut-être proposer des solutions alternatives rapidement.
Justement, Michael, tu parles donc de se réinventer donc en matière de taekwondo. Ça m'intéresse évidemment beaucoup. Parce que le taekwondo tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les plastrons électroniques, est-ce que tu penses que ça serait plus profitable, on va dire, pour le taekwondo de revenir peut-être à un taekwondo plus traditionnel, sans toutes ces technologies, dans un taekwondo avec un peu plus de show, moins d'électronique et peut-être plus d'action? Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Ouais, je pense que le taekwondo est riche par sa diversité, c'est-à-dire c'est le taekwondo comme tu le décris, c'est un taekwondo performance. Le taekwondo performance, il a changé parce que on avait le souci d'être beaucoup plus équitable par rapport à différents problèmes d'arbitrage qu'on a pu connaître précédemment sur les premiers jeux. Donc c'est quelque chose de positif parce que aujourd'hui le sport évolue, ça a porté le côté numérique, le côté digital, le côté data au sport qui va lui permettre d'améliorer. Donc ça, je pense qu'on est en courant et on est obligé de s'adapter à ces nouvelles générations. Ensuite, je pense que oui, les fondamentaux vont être importants. Il faudrait se recentrer aussi sur certains fondamentaux et ne pas perdre l'essence même, l'ADN de notre sport, l'art martial. Et pour moi, les fondamentaux, ils sont autour des valeurs du sport en général, que ce soit des valeurs de respect, de solidarité. On peut aussi se reconcentrer sur la formation, l'éducation par le sport. Et je pense que le sport est une école de la vie. d'une certaine façon, donc un bon outil de développement personnel.
Tu penses qu'il faudrait améliorer tout ça pour éviter peut-être de perdre tous ces athlètes, surtout les athlètes de haut niveau qui ont tendance à quitter la France ?
Améliorer tout ça ? Non, je pense qu'il faudrait consolider le tout. On peut prendre l'exemple de cette crise qu'on vit par le confinement. Le sport performance a dû faire une parenthèse, une pause, mais paradoxalement, le sport loisir et le sport santé a pris toute son ampleur d'une certaine façon. On peut voir les gens qui se sont remis au sport parce qu'il y a eu cette envie, en fait, ce besoin vital de bouger, de libérer une certaine pression due au confinement, de se sentir plus libre. Donc, en fait, ça correspondait à une nouvelle, peut-être un nouveau type de licencié où ce n'est plus le sport performance, mais le sport loisir, le sport santé qui devient beaucoup plus intéressant.
Est-ce que toi, tu as eu envie, à un moment donné, ou peut-être actuellement, d'aller vers d'autres sports de combat et pourquoi ?
Alors, j'ai eu envie, quand j'ai raté ma carrière en 2012, j'ai eu envie de pratiquer un autre sport parce que je suis formaté et je suis conditionné pour la performance.
Après rater sa carrière, on peut pas dire que tu as raté ta carrière avec les titres que tu as eu quand même.
Non, je dis pas que j'ai raté ma carrière, j'ai dit que j'avais besoin de changer d'autre chose, de voir autre chose. Donc j'ai fait un peu du YouTube brésilien en fait.
D'accord.
Mais j'ai dit que je suis conditionné pour la performance. Donc c'était complètement difficile de continuer le taekwondo sans être dans une pratique performance. Donc je me suis dit bon allez, il fallait que je me fasse plaisir et j'avais aussi ce complexe de me dire ben oui, je suis peut-être fort en contact, en percussion, mais en appréhension, je voulais vraiment être ce guerrier un petit peu parfait, quoi. Être capable de pouvoir me défendre, pratiquer un sport que ce soit de contact, c'est-à-dire d'appréhension et à distance également. Donc j'ai essayé voilà de badminton, j'ai essayé du jiu-jitsu brésilien. Et en ce moment, je fais un peu de workout, un petit peu, voilà, avec ma famille. Donc, je me régale. Je me dépense de façon différente. Mais j'ai dû réapprendre à pratiquer un sport, en fait, d'une certaine façon.
Et justement, quels seraient tes conseils pour arriver à ces objectifs ? Et toi, quel est ton objectif actuel ? Ou alors, quel a été ton plus grand objectif de vie, si on peut dire ?
Mon plus grand objectif de vie, ça a été d'abord, lorsque j'étais sportif, c'est-à-dire de devenir le meilleur. J'avais un rêve, c'était de devenir l'homme le plus fort du monde. Lorsque j'avais 10 ans, j'étais un fan de Bruce Lee, de manga, de films asiatiques, donc je rêvais par procuration, d'une certaine façon. Donc je rêvais d'être le meilleur au monde. Donc je me suis, entre guillemets, d'une façon donné les moyens de réaliser un rêve. Et aujourd'hui, mes valeurs ont changé. Je suis plus sur ce côté égocentrique de devenir l'homme le plus fort du monde. Je suis plutôt sur une vocation de partage, d'accompagnement. Donc c'est plutôt tourné vers l'autre. Et ça, c'est complètement une approche complètement différente. Tourner vers l'autre pour aider les autres, peut-être via ma formation, via mon parcours, pour essayer d'aider les autres à s'édifier. J'aime bien dire ça parce que c'est voilà, on est en constante évolution dans notre parcours de vie. Donc voilà, moi c'est plutôt ce côté-là où je m'affirme, où je m'épanouis en tout cas.
D'accord. Est-ce que tu peux nous donner ton plus beau souvenir en tant qu'athlète ?
Alors mon plus beau souvenir en tant qu'athlète, c'était ma victoire à la Coupe du Monde de Taekwondo au Vietnam. La petite histoire, c'est lorsque j'ai commencé le Taekwondo, je cherchais une sorte de mentor, comme un maître yoga. Et j'ai commencé le Taekwondo à Cergy-Pontoise avec Maître Phan, qui est un Vietnamien, justement, et qui m'a enseigné tout son savoir, ses valeurs du Taekwondo. Et c'est celui, en fait, qui m'a permis, on va dire, de sortir du lot. Et ironie du sort, lorsqu'on s'est déplacé avec l'équipe de France au Vietnam, il était chef de délégation. Alors c'était un honneur pour moi de gagner, et c'était la première fois que je gagnais une compétition de référence mondiale, de gagner une Coupe du Monde au Vietnam devant les pairs de mon maître en fait. Et
oui,
c'était la
sûr.
Plus belle récompense que je pouvais lui offrir.
C'est magnifique. Et du coup, ton plus grand regret, si tu en as un, quel serait-il ?
Alors, mon plus grand regret, cette question est difficile parce que lorsque je prends une décision, je suis du genre à l'assumer, aller au bout. Mais par contre, mon plus grand regret, c'est d'avoir fait les jeux sans que mes parents puissent venir me voir et assister à l'un des plus bons combats de ma carrière.
Ouais, c'est sûr. Ça devient... enfin, il a dû t'avoir une grande force mentale, du coup, pour y arriver, quoi, pour y aller et pour y faire face.
Oui, c'est ça. Surtout que la petite anecdote, c'est que moi, j'ai qualifié la catégorie des lourds. Ils ont choisi mon partenaire et adversaire Pascal Gentil. Et un mois avant, on me rappelle parce que Pascal est blessé, donc je suis obligé de me remobiliser physiquement et mentalement pour aller au jeu.
Une phase qui avait fait voilà. beaucoup de polémiques d'ailleurs à l'époque, si je m'en souviens bien, ça avait fait beaucoup de polémiques.
Oui, bien sûr, surtout que l'entraîneur olympique du moment qui était Hank Meyer a démissionné parce qu'il ne trouvait que cette décision fédérale n'était pas juste. Donc je me suis retrouvé avec un entraîneur qui était Michael Alozio sur la chaise. Ça s'est bien passé, la collaboration, mais finalement j'étais pas dans les meilleures conditions pour pouvoir aller chercher que je pensais possible à ce moment-là, puisque j'avais quand même gagné le tournoi mondial de qualification olympique, aller chercher l'or. Donc oui, il y avait une grosse frustration et après coup, j'ai fait un bon combat parce que je pars quand même d'un point à quelques secondes de la fin face au double champion du monde Modibo Keita. Mais voilà, c'était une belle expérience parce que faire les jeux pour un athlète, c'est quand même une consécration. Et voilà, donc j'aurais aimé que mes parents puissent être là, assister à ce combat et voilà. Et c'est toujours plaisant d'avoir ses parents et de voir cette lueur de fierté dans leurs yeux.
J'ai une dernière question, du coup, par rapport au confinement. Comment toi tu l'as vécu? Et surtout, qu'est-ce que tu peux en conclure de tout cela et qu'est-ce qu'on peut en retenir par rapport à l'avenir?
Alors, pour moi, comment je l'ai vécu? Je l'ai vécu bien. J'ai vécu bien parce que j'ai la chance d'être entouré de ma famille qui est en bonne santé. Et étant en ce moment en train de monter mon entreprise, ça m'a permis de travailler sur l'identité, les valeurs de l'entreprise, comment je veux communiquer, comment je veux qu'elle soit perçue. Et donc moi, j'ai essayé de saisir l'opportunité que ce confinement nous donnait. Et comme je le disais, moi, j'ai tendance à essayer de voir le bon côté des choses, malgré, on va dire, ces morts, bien sûr, et tous ces problèmes, toutes ces crises que ça occasionne et ça va occasionner. Et pour moi, j'espère en tout cas que cette crise ne soit pas une parenthèse, mais au contraire une occasion historique de remettre en question notre modèle du sport et notre modèle de société. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse d'une certaine façon au sport, parce que comme je l'ai dit, c'est le sport loisir, le sport santé, le sport a pris toute son ampleur, et qu'aujourd'hui, j'espère que ça va valoriser le sport, que ce soit dans les milieux économiques, politiques, et qu'on va vraiment voir l'influence positive du sport sur notre société d'une certaine façon.
Michael, je te remercie pour cette interview qui était d'ailleurs très positive et qui fait du bien au moral.
C'est vrai.
Merci Michael.
Merci voilà. Pour cet échange.
On te souhaite en tout cas beaucoup de courage pour la suite de tes projets et puis à très vite. FLP Radio. FLP Radio.